La mairie vous répond. Le rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi, tous les deux mois, à 18h10 sur Neptune FM.
Jeudi 4 mai, la mairie vous répond. On parle de budget et finances de la commune de l'Île-Dieu. Bonjour Bruno Nourry.
Bonjour.
Vous êtes le maire de l'Île-Dieu. Bonjour Bruno Chopin.
Bonjour.
Vous êtes directeur général des services. En pourcentage, à combien estimez-vous le surcroît insulaire ?
Alors, en pourcentage, c'est difficile à dire. Je préfère parler de situation insulaire où le surcoût se traduit par plusieurs éléments.
Car moi, j'avais comme chiffre 30%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Non, si on prend une valeur brute comme ça, elle correspond pas à certaines situations. Il y a le surcoût, par exemple, si c'est de la construction, oui, 30-40%. Si c'est du matériau de voirie, j'ai envie de dire c'est x4. Si c'est du fuel pour le chauffage, un peu plus cher, mais c'est nettement plus faible. La situation est très contrastée. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la situation insulaire fait que d'une part, on ne peut pas se mettre en intercommunalité et qu'on est obligé de suréquiper l'île, ou disons d'avoir des équipements particuliers pour l'île, ou sur le continent, ces mêmes équipements seraient mutualisés avec d'autres.
Par exemple, une salle de spectacle.
Par exemple, une salle de spectacle, un complexe sportif, des équipements publics, on va dire.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de piscine sur l'Île-Dieu, ça coûte trop cher.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de piscine sur l'Île-Dieu. C'est vrai que sur le continent, ils se mettent à plusieurs communes pour le faire. Après, on a aussi des équipements particuliers sur le continent qui seraient de l'ordre de l'activité privée et pas publique. Je pense notamment quand on a fait les chambres funéraires, le camping est municipal, le cinéma est municipal. On a un aérodrome, c'est pas pour se faire plaisir, parce que derrière ça, il y a quand même les évacuations sanitaires. Mais bon, c'est un coût tous les ans. Et après, sur tout ce qu'investit la commune, effectivement, il y a un surcoût. On parlait de 30%. Alors, ça dépend des équipements, mais ce surcoût est bien réel. Et puis, on a aussi des surcoûts liés au fonctionnement, hein, parce que tout ce que la commune achète est plus cher. Alors, après, dire c'est un pourcentage, non, par contre, ça fait plusieurs années qu'on bataille, j'ai envie de dire, pour faire reconnaître ces surcoûts à l'État, parce que quand l'État nous donne une dotation globale de fonctionnement...
Qui est en baisse actuellement.
Qui est en baisse, on va y revenir, qui est définie, qui est répartie selon plusieurs critères sur toutes les communes de France.
Quels critères, pour rappel ?
C'est essentiellement un critère de population, de potentiel fiscal, de nombre d'enfants dans les écoles, de kilométrage de voirie, de superficie de la commune, etc. Mais ça, c'est pas très représentatif de l'insularité. Or, pour à commune équivalente, 1 euro qui serait donné sur une commune continentale qui aurait les mêmes caractéristiques que la commune de l'Île-Dieu, eh ben, 7 euros-là qui viendraient à la commune de l'Île-Dieu, la commune fait moins de choses avec. Or, la DGF a une notion...
À cause du surcoût.
A une notion de péréquation. Donc, si l'État voulait vraiment donner une justice dans ses dotations, ce serait de prendre en compte ces critères insulaires, en fait.
Les critères insulaires sont maintenant pris en compte par la dotation communale insulaire.
Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est un vieux dossier qui me tient à cœur. Je suis assez content parce que on l'avait entamé, j'étais pas encore maire.
Et c'était déjà dans les tuyaux.
Oui, c'était déjà dans les tuyaux parce qu'on voulait que les îles du Ponant se groupent autour de ce sujet-là pour dire à l'État, voilà, notre dotation est pas assez élevée. Alors, on s'était retourné à l'époque vers quelqu'un qu'on connaissait qui est Yann Lemeur, qui est l'un des 10 spécialistes en France de la DGF pour faire une étude. Bon, dans un premier temps, il nous a dit, oui, va falloir jouer avec les critères existants, c'est-à-dire demander que votre kilométrage de voirie ait un coefficient multiplicateur, des choses de cet ordre-là, comme c'est le cas pour les communes de montagne qui ont des coefficients multiplicateurs sur certains critères. On est passé, je vais vous épargner les détails, on est passé au crible de l'Assemblée, et puis la plupart de nos amendements avaient été blackboulés. sauf celui concernant la voirie. Donc on était reparti à la charge avec Yann Lemeur en disant, mais en fait, il faudrait vraiment une enveloppe insulaire. Donc le premier des travaux qu'on lui a demandé, c'était d'objectiver le surcoût. Parce que l'État, si on lui demande quelque chose, il faut que ce soit justifié, donc il fallait bien le justifier. Et il a montré dans son étude que sur les 15 communes insulaires, pardon, ce surcoût-là était de deux ordres, un en fonctionnement, un en investissement. Et en fait, il a montré qu'en fonctionnement, c'était 2 millions d'euros par an pour toutes les îles, et en investissement, 2 millions d'euros par an. Bon, l'Île-Dieu pesant pour un tiers de la population des îles, on peut dire qu'un tiers de ces surcoûts sont liés à l'Île-Dieu. Et fort de ce constat, nous sommes allés trouver, les politiques, c'est beaucoup de lobbying dans les couloirs, mais donc en fin d'année, lors de la loi des finances, une dotation spécifique.
Fin d'année 2016 ?
Oui, spécifique pour les communes insulaires a été votée par le Parlement, donnant aux communes cette dotation de 4 millions d'euros répartie au prorata de la population DGF.
Pour l'Île-Dieu, ça fait 1 014 000 euros.
1 260 000 euros, 270 000 euros.
C'est précis.
Oui. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est 1 million 2, on va dire. Ouais. Ah pardon, 1 139 000, j'ai le chiffre sous le nez.
1 139 000. Merci Bruno Chopin.
Oui. Donc ça, c'est une vraie victoire de... Tout d'abord de reconnaissance du travail qu'on a fait, mais aussi un rééquilibrage par rapport aux communes continentales. C'est-à-dire que cette dotation qui nous est donnée permet de traiter de manière juste une commune insulaire avec une commune continentale.
Cette dotation communale insulaire a pris combien de temps entre l'idée et l'aboutissement en fin 2016?
Moi, j'avais commencé à l'époque, avec le DGS de l'époque, je vais dire, il faut presque 10 ans, quoi.
10 ans?
Ouais, c'est 10 ans de combat. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a des fois, quand nos premiers amendements étaient blackboulés, on est reparti à la charge de manière un peu différente. Il fallait convaincre les autres maires des îles du Ponant sur la justesse de ce combat-là. Et aujourd'hui, avoir cette dotation supplémentaire va permettre à la commune de mieux gérer ses investissements.
À ce jour, à combien s'élèvent les dotations globales de fonctionnement pour l'Île-Dieu ?
À ce jour, on va dire que c'est 1,5 million, 1,6 million euros. Ces trois dernières années, on a perdu 150 000 euros par an du fait de la baisse de ces dotations. Donc on va dire qu'on a 450 000 euros de moins pour fonctionner par an par rapport à il y a trois ans.
Et ça impacte sur quoi ?
Sur tous les services, c'est sur le budget général. Donc après, ce qui est important sur un budget général, c'est de pouvoir dégager en fin d'année un résultat qui permette d'une part de rembourser le capital de l'emprunt et d'autre part de mener des nouveaux investissements. Donc avec 450 000 euros de moins, c'est 450 000 euros de résultats en moins si on est prête-gare. Et donc ça peut impacter forcément les politiques qu'on suit en matière d'investissement. Donc la première des choses, c'était de réaliser des économies, de trouver d'autres sources de
financement,
pour limiter l'impact de ces 450 000 euros.
Quelles sont vos orientations et priorités budgétaires pour l'année 2017 et les années à venir pour la mairie de l'Île-Dieu ?
Alors,
Bruno Nourry ou Bruno Chopin ?
Non, mais je vais parler sur les années à venir. Tout d'abord, on a le CTM qui a brûlé il y a deux ans, qui doit être construit en zone artisanale. Donc ça, on va mettre le premier coup de pioche cette année. C'est un gros investissement, mais qui va permettre...
Investissement de combien ?
Sur le bâtiment, on estime à environ 2 millions d'euros. Donc c'est un gros investissement, mais on a besoin pour que les équipes puissent travailler dans de bonnes conditions. Là, on a les services éclatés à droite, à gauche, du matériel un peu partout. C'est pas très rationnel.
Par exemple, il y a des services dans le fort de la Citadelle.
Il y a des services dans le fort de la Citadelle. Il y en a au PU. Il y en a
à l'ancien CTM
aussi. Il y en a sur la zone artisanale. Il y en a un peu partout. Ouais.
Les autres
Investissements, pardon. Oui. on a un deuxième projet qui est la médiathèque, parce qu'on a ouvert la bibliothèque dans l'école de Ponant. Il y a une certaine normalisation sur les tailles de médiathèque en fonction de la
population
pour bien fonctionner. Et puis, cette médiathèque, nous, on veut que ce soit un lieu ludique, utile.
Un petit peu comme ça se fait à l'école du Ponant. Un lieu vraiment ludique.
Oui.
Pour tous les âges.
Mais en allant plus loin, c'est-à-dire que on a besoin d'y loger aussi le service patrimoine qui fait tout un travail sur la mémoire. Donc c'est important de l'accoupler à ce service de médiathèque, puisqu'on a aussi des ressources locales en termes documentaires, photos et autres. On va y coupler aussi l'espace régional numérique qui est actuellement dans le pôle économique, parce que là aussi ça se prête à ce sujet-là. On va y ramener nos archives municipales, enfin aussi salle d'expo, et à côté on aura besoin aussi de reconstruire les trainbots, parce qu'ils sont actuellement dans l'ancien Tichiron, qui est un bâtiment
désuet, on peut dire ça comme
désuet, ça. Désuet, oui. Tout ça s'est décroulé de reconstruire, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le gros projet du mandat. On s'était engagé là-dessus.
Cette médiathèque, construction à partir de quand? Est-ce qu'on a une date de début?
Date de début, vraisemblablement l'année prochaine.
Ouais. 2018.
2018, début de construction.
Pour une ouverture, quand? On a déjà une
date?
Ça
va faire 2019, ce serait bien.
Fin 2019.
Ouais, fin 2019.
Fin 2019. Et cette médiathèque sera où?
Alors, on a longtemps tergiversé sur le lieu. Cette médiathèque s'adresse aux gens de Lille, aux résidents secondaires, mais aussi aux gens de passage, mais avant tout à la vie locale. Donc c'était important pour nous de la positionner sur quelque part où il y avait du sens pour la vie locale.
À Port-Joinville ?
À Port-Joinville, parce que c'était important aussi d'accompagner le dynamisme commercial du port, donc pas trop loin du centre-ville. On avait besoin aussi du fait du travail du service patrimoine auprès des anciens, etc., d'être peut-être pas très loin des EHPAD.
Chênevert et Calypso.
Et finalement, le site du Petit Giron s'est un peu imposé à nous. Parce que aussi, il y a le cinéma à côté, qui est un outil complètement complémentaire avec la médiathèque. C'est les médiathèques. Pour qu'elle soit vraiment bien imprégnée dans le territoire, c'est important de pouvoir la rendre très accessible aux jeunes publics, on va dire 9-14 ans. Et donc d'avoir les trainbots à proximité, c'était un atout supplémentaire pour vraiment que cet outil soit utilisé par cette population de jeunes.
On pourra dire que c'est un lieu multigénérationnel.
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est aussi le but recherché, non?
Oui, c'est le but recherché. Je crois que ça, une médiathèque, ça sert à tout le monde. Aujourd'hui, on a près de 700 inscrits
à
l'école du Ponant. Donc, ça tourne, il y a une vraie dynamique. Dans une médiathèque, aujourd'hui, c'est peu seulement du prêt de livre. Il y a tout un tas de documents. C'est de la ressource documentaire sur le patrimoine. Des conférences, c'est des moments d'échange, c'est
des moments de jeu également.
De jeu également, donc voilà, avec un cinéma à côté. Enfin, je pense qu'on va vraiment avoir un outil adapté au territoire, et puis aussi de le mettre près.
On peut appeler ça un pôle culturel.
Un pôle culturel, si on veut, oui. Le positionner aussi auprès des EHPAD, c'est donner un outil culturel aussi à nos aînés. Je crois que c'est important pour eux. de pas avoir l'impression d'être au bout de l'impasse du puits Raymond où il se passe où il se passerait trop rien. Non, on amène de la vie, de la culture, de la jeunesse. Donc je crois que ça va être vraiment apprécié par nos aînés. Ouais.
Quelles sont vos autres orientations et priorités budgétaires, excusez-moi.
Alors, dans la même lignée que le CTM, on a la mairie, qui est un bâtiment voilà, qui a l'âge qu'il a, hein, qui est pas très fonctionnel, et surtout qui aujourd'hui ne permet pas d'accueillir tous nos services administratifs. Donc on a des services administratifs disséminés un peu sur le territoire, hein, un peu comme les services techniques.
Hein. J'allais dire, ouais,
ouais. Et c'est important de retrouver un endroit où les équipes se voient pour créer des synergies, un outil de travail adapté, parce que là, les bureaux sont désuets, etc. Et donc, on a un projet donc de refaire d'abord le bâtiment actuel, de le réaménager, de refaire de l'isolation thermique, parce qu'on a beaucoup de subventions sur comme on est estampillé TEPCV, donc on profite pour le faire. Sinon,
TEPCV, territoire à énergie positive.
Pour la croissance verte, ouais, c'est ça. Et si on n'avait pas ces subventions, on ne pourrait pas faire ce projet. Donc il y a un côté opportunité qu'il faut savoir saisir. Et derrière la mairie, dans la rue Requenot, on a aussi une emprise foncière qui va permettre l'extension et pouvoir rapatrier l'ensemble de nos services sur la mairie. Et donc ce sera appréciable pour tous d'avoir un endroit administratif et pas d'avoir ces endroits éclatés, quoi. Donc ça aussi, c'était une priorité. Après, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas les lister. On a on peut lister un peu. Et on a des programmes sur la voirie, par exemple. Hein. Bon, cette année va être finie la route des Anglais. On avait commencé l'année dernière. On a des rues dans l'arrière-port, la rue de la Fée, la rue des Abattoirs.
La voirie, c'est un budget important pour la mairie de Lille-Dieu ?
Oui, c'est à peu près 600 000 euros par an. Sur ces 600 000 euros, on a des travaux de réfection de voirie. On a aussi de refaire les chemins, parce qu'on achète des matériaux sur le continent pour refaire nos chemins. Je crois que c'est un budget à peu près de 130 000 euros par an. Et puis on a différents petits équipements ou d'aménagements qui sont aussi dans ce budget-là. Mais c'est vrai que c'est un budget qui est quand même assez important pour la commune, oui. Alors, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur nouvelles techniques et on est assez content du résultat sur l'enrobé à chaud, parce que dans les années, on nous disait on ne peut pas faire d'enrobé à chaud. Donc, on faisait cet enrobé à froid, compomac, qui mettait un temps fou à sécher, qui a un revêtement qui est intéressant, mais qui est soumis au cisaillement dans les virages, etc. Et en fait, on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient à Belle-Île, c'est-à-dire que l'enrobé à chaud est constitué sur le continent, un peu plus chaud que d'habitude. Il est mis dans la cale d'un bateau pour venir jusque sur l'île, et qu'il soit encore à bonne température, et il faut l'étaler tout de suite. Donc c'est ce qu'on fait depuis 2 ans, et bon, on voit bien la qualité du revêtement aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait par le passé, et avec un coût un peu moins. Donc on arrive à en faire un peu plus.
Les autres orientations et priorités budgétaires ?
Ben, après, on a différentes choses, petites ou grosses. Bon, on a par exemple tout le drainage du terrain de foot à refaire. Il y a question d'éclairage aussi sur le terrain de foot.
Ça aussi, c'est un coût important ?
Oui. Ces entretiens-là ont des coûts importants. On a des budgets divers et variés, hein, sur de l'électrification, du remplacement de lampadaires. On a aussi les fresques de Saint-Sauveur. C'est une bonne nouvelle de les avoir trouvées, mais c'est un gros morceau à avaler budgétairement. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un gros programme sur l'érosion dunaire aussi. bon, qui a commencé hein, déjà sur la partie nord-ouest de l'île, mais qui va continuer. Hein, c'est un programme qui durera 3 ans. On a différentes choses donc sur les bâtiments communaux autres que CTM, etc. Hein, de réhabilitation. Alors des fois c'est du gros entretien, on va dire, mais qui sont importants à mener. On a des investissements aussi à faire sur l'aérodrome. Il y a la toiture de l'aérodrome. Je pense cette année aussi, on a la toiture de la SPE, enfin l'autre partie. On a des choses sur le musée de la pêche, etc.
Et un terrain de tennis aussi, non ?
Ah oui, il y a la couverture d'un terrain de tennis. Donc ça, ça fait l'objet de discussions avec le TCI, Tennis Club Villers.
Merci.
Parce que, en fait, pour la pratique du tennis, c'est important d'avoir une salle. Et en fait, le TCI, souvent, est amené à prendre des créneaux dans les salles omnisports, sur les deux salles omnisports qui ont déjà des créneaux bien chargés. Et pour autant, pour que la pratique du tennis se fasse bien pour les jeunes.
Et perdure sur les lieux, oui.
Et perdure, il faut vraiment un équipement couvert. Donc, ça fait déjà quelques années, ils étaient venus nous voir en voulant faire un bâtiment. Bon, premier abord, nous, c'est sur le type de bâtiment qui nous plaisait pas. Et puis, finalement, on a trouvé un montage, parce que les terrains de tennis au Marais Salé, en fait, appartiennent au TCI, ceux qu'ils ont construit, mais le terrain appartient à la commune. Donc on a trouvé une mécanique financière pour le faire, c'est-à-dire que c'est nous qui allons investir, on louera cet équipement au TCI, donc ce bâtiment va pouvoir se faire, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire enfin. Quoi.
Début de travaux pour ce TCI ?
Ben, c'est budgété cette année, et puis c'est bâtiment modulaire, donc ça va aller vite, je pense, à l'automne. J'imagine, ouais.
Pour un coût global de combien ?
On était dans les 300 000, j'ai pas le chiffre sous le nez, mais un bâtiment à 300 000 euros à peu près.
Et on vient d'avoir la réponse de l'État sur une aide concernant la DETR à hauteur de 90 000 euros sur ce
projet. DETR ?
Oui, c'est l'enveloppe préfectorale pour aider aux investissements des territoires ruraux, donc dotation d'équipement des territoires ruraux. Et c'est suivant le type d'équipement, donc il faut faire un peu de lobbying aussi. Mais c'est important.
Vous en parlez, j'ai l'impression qu'il faut toujours faire du lobbying.
Oui, toujours. Non, mais de toute façon, si on jouait qu'avec nos propres budgets et qu'on n'allait pas chercher des...
À la pêche aux subventions, on peut dire, c'est comme ça ?
Oui, à la pêche aux subventions, il faut le dire. Mm-hmm. On ne ferait pas autant de choses. Et donc, les subventions sont une part importante de nos budgets. Donc, il faut toujours sans cesse aller chercher ces subventions pour...
Aller à la pêche aux subventions.
Ouais,
on est sur les lieux, on peut dire pêche.
Oui, on peut dire pêche. Mais c'est important pour nos budgets. Sinon, encore une fois, on n'y arriverait pas. On ferait beaucoup moins de choses. Donc là, sur ce bâtiment, en fait, pour que le loyer soit acceptable et que la commune soit un peu une opération un peu blanche, parce que c'était ça l'esprit, bah, il était important de pouvoir faire subventionner ce bâtiment. Donc je pense que là, c'est une bonne opération aussi.
Toutes ces orientations et ces priorités budgétaires, comment les financez-vous ?
Alors, il y a plusieurs choses.
Il y a plusieurs mécanismes.
Oui, il y a plusieurs mécanismes. Disons, tout à l'heure, on parlait de mécanique budgétaire où il est important de dégager annuellement un résultat qui permette de rembourser le capital, de rembourser nos emprunts, mais d'avoir des sommes pour les investissements nouveaux. Par le passé, on avait fait un certain nombre d'équipements, on avait voulu vendre un peu du patrimoine communal, parce que ça aussi, la gestion du patrimoine communal, c'est important, c'est pas la peine de garder des choses qui servent plus, mais il faut qu'on ait une gestion dynamique de ces patrimoines, qui soit vivant, parce que c'est l'outil de la commune, c'est l'outil de tous. Donc on le fait maintenant, ce qui a permis ces 3 dernières années de ne pas emprunter, hein, donc de baisser la dette de la commune.
La dette de la commune pourrait être remboursée dans 6 ans.
Ouais,
si
en fait, c'est un...
de nouveaux emprunts ne sont pas contractés.
C'est un ratio, parce que je voyais que tu avais une question sur la dette par habitant.
Oui.
J'aime pas tellement parler de dette par habitant, hein, j'avais déjà dit par le passé, parce que c'est pas un indicateur pertinent pour moi. Je m'explique, plus on est riche, plus on peut s'endetter, et donc finalement, une dette élevée par habitant, c'est peut-être le reflet d'une commune riche. Donc il faut se méfier avec ce genre de ratio. Des villes comme Paris sont très endettées, mais sont par ailleurs très, très riches, donc c'est pas un problème. Et par contre, quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, ben une petite dette peut être
catastrophique.
Voilà. Donc, en revanche, un indicateur qui est pertinent, c'est la capacité à rembourser ses emprunts. Et bon, il est coutume de dire, enfin dans la pratique, que voilà, sur ce qu'on dégage annuellement, si on l'affectait qu'au remboursement de la dette, en combien de temps on arrivera à rembourser cette dette ? Et ça, c'est révélateur de la richesse ou d'une certaine bonne gestion dans la gestion de l'emprunt et donc de la dette. Et cette durée, on admet que, voilà, dès qu'elle passe, si ça passe 10 ans, faut commencer à regarder d'un peu plus près.
À 15 ans, c'est catastrophique.
15 ans, c'est seuil d'alerte. Là, on a la préfecture sur le dos. Et voilà, donc 6, 7 ans, c'est pas mal. En fait, au municipal, j'avais dit comme objectif, c'était de redescendre de 2 ans cette dette. On était un peu au-delà de 10 ans, de redescendre à 8. Et demi, bon, sachant qu'on a eu un contexte particulier, puisqu'on a eu cette baisse de la DGF. Par ailleurs, on a serré, on a mieux, je sais pas comment dire, probablement mieux organiser nos affaires, ce qui fait que aujourd'hui, en 2016, ce qu'on dégageait annuellement, notre épargne brute était d'1,6 million, je crois, donc 1,6 million ou 1,7 million, 1,7 million.
Oui, c'est ça.
Ouais, un peu plus d'1,7 million. Ça permet. Donc c'est plus élevé que ce qu'on avait en 2013, hein. C'était l'exercice de référence. Je ne parle pas des exercices 2014 et 2015, parce qu'elles ont été impactées par les ventes de terrain qui sont passées par le fonctionnement assez curieusement, mais bon, ça c'est les règles comptables qu'on pollue un peu la lecture budgétaire. Alors on se disait, les lieux, c'est alléluia, mais non, c'était... c'était ces ventes de terrain qui polluaient un peu cette lecture comptable. De 2016, on en a eu très peu, donc on peut dire que c'est un exercice qui permet d'avoir une référence. Donc c'est 1,7 million de résultats qui ont permis de rembourser le capital de l'emprunt, mais c'est 1,7 million si on les ramène sur les 10 millions de dette par rapport à la population DGF, puisque c'est ça, on avait une dette par habitant qui était aux alentours de 1 300 €. Mais encore une fois, c'est pas un bon critère. En revanche, c'est 1,7 million ramené à ces 10 millions de dettes, mais ça nous fait une capacité à rembourser en un peu moins de 6 ans. Donc c'est plutôt un beau ratio. Mais on voit qu'il peut évoluer vite, hein, c'est-à-dire que bah, si on ne fait pas 1,7 million de résultats, tu fais qu'à 1,2 million, 1,3 million, mais tout de suite, tu passes à 7, 8 ans. Donc c'est pas tant le poids de la dette, mais plutôt notre capacité à dégager du résultat pour rembourser qui est important, quoi.
Pour en venir aux orientations et aux priorités, comment sont financées ces orientations ?
Alors, juste
et ces priorités ?
Ah oui, c'est
orientations. Mais on revient à la question.
Oui, ah oui, c'est vrai, c'est ça la question.
Oui, oui, oui.
Merci Roland de me recadrer, parce que moi je pars. Hein. Alors il y a plusieurs choses. D'une part, il y a ce résultat de l'année. Une fois remboursé le capital de l'emprunt, on a une somme pour gérer nos investissements. Ces investissements donc sont financés d'une part par ce résultat. On peut avoir du report de l'excédent des années précédentes. C'est ce qui se passe cette année. On avait un gros report d'investissement. Mais ça, c'est du fait des sessions immobilières qu'on a fait, hein, parce qu'on va avoir ces gros programmes qui arrivent. Et ces gros programmes, on fait attention à bien les subventionner. On a d'une part, par exemple, on va avoir la signature début mai du contrat de territoire. Vendée Territoire, c'est ça. Donc c'est une dotation pour l'Île-Dieu de 800 000 euros, en fait, qui a été abondée de 100%, en fait, a été doublée dans le cas de l'Île-Dieu du fait de son insularité. On est en fin de contrat avec la région, on va repartir sur un nouveau, le président nous a annoncé le même montant, donc 1,2 million pour les trois ans qui viennent. On a tout un tas d'autres subventions, on parlait de DETR tout à l'heure, ou des subventions état, spécifiques, mais... par exemple la DRAC sur la partie médiathèque, si on a un contrat de lecture avec eux, ira jusqu'à 40% de subventions. On
a million d'euros pour la croissance verte.
Le million d'euros pour la croissance verte. Et aussi, la dotation insulaire qu'on a, parce que celle-ci, on va la toucher tous les ans. Donc, quand on disait tout à l'heure, on dégage 1,6 million, 1,7 million par an, ben, on va dégager 1 million de plus. Donc, c'est 2,6 million à 2,7 million qu'on va dégager par an. Donc ça donne vraiment de l'air pour les investissements. Alors les investissements à venir, mais pour tous ceux qui viendront par la suite, bien au-delà du mandat municipal. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, la commune de l'Île-Dieu retrouve des capacités à investir du fait de cette dotation d'insularité. On retrouve de la visibilité, des projets qui étaient dans les cartons depuis des années parce que qui se faisaient pas, parce qu'il n'y avait pas les moyens, aujourd'hui deviennent de l'ordre du possible. Donc vraiment, c'est une belle opportunité pour les lieux.
L'Europe dans tout ça.
Ah oui, j'ai pas fini. Attends, juste pour finir, peut-être qu'on aura un peu d'emprunt aussi. Donc ça, c'est à peaufiner nos évaluations budgétaires, mais bon, ce million d'euros change beaucoup la donne. Donc voilà.
On a bien compris. Ouais. L'Europe.
Oui.
Vous êtes subventionné par l'Europe?
Oui, on a des programmes sur Leader, notamment.
Pour Terre Fertile, par exemple.
Pour Terre Fertile, par exemple.
Animation du site Nature 2000.
Aussi, ouais. Mais c'est bien, t'as toutes les réponses en fait. Mais oui, animation du site Nature 2000. Après, c'est assez compliqué en fait d'aller chercher des subventions européennes parce que c'est un peu plus compliqué que sur des collectivités locales françaises. Je pense au département, à la région. Où il y a plus de proximité, les dossiers sont plus faciles.
Vous avez plus de contacts, ce qui est logique
plus
aussi.
De contacts aussi, oui. Et après, l'Union européenne a ses propres fléchages de subventions. Donc après, il faut aller les chercher quand le sujet s'y prête. Quoi.
Par exemple, Terre Fertile, par l'animation du site Nature 2000.
Par exemple.
C'est un exemple. Ouais. De nouveaux emprunts contractés par la mairie de l'Île-Dieu prochainement?
Alors, pas depuis 3 ans, pas cette année non plus.
Maintenant, c'est pour ça que je le dis prochainement.
Oui, sur les gros projets à venir. On a le CTM, en fait, la préfecture nous a affecté une DETR de 400 000 euros sur ce projet. Alors, on l'avait déjà dans les cartons, ce projet de bâtiment communal, mais bon. On ne savait pas le financer, là, bon, on est à 400 000, on a eu l'argent de l'assurance aussi, même si une partie a servi à couvrir le sinistre en remplacement de matériel ou en faisant certains travaux de consolidation du bâtiment actuel. Mais bon, on a une somme pour investir de la part de l'assurance. Le CTM actuel rue des Corsaires, on le vendra, hein, on n'aura pas vocation à garder, ce qui fait qu'à l'arrivée, le solde pour la commune ne sera pas très élevé en fait. On a la même chose sur la mairie, on est beaucoup aidé sur le TEPCV, on aura aussi...
TEPCV.
Oui, TEPCV. Ouais. territoire énergie positive pour la croissance verte. Non, mais on l'a dit déjà préalablement.
Oui, mais c'est bien de le répéter.
C'est pour nos éditeurs qui nous rejoignent encore.
Exactement.
Ouais. On a aussi, sur la mairie, on aura des demandes de DETR aussi, parce que, donc dotation d'équipement des territoires ruraux de la préfecture, parce que le fléchage va avant tout sur les équipements publics, notamment les mairies ou les écoles, quand il y a les écoles, donc on aura ça aussi. Et les bâtiments qui vont être libérés par regroupement de services, nous on les vendra aussi, ce qui fait que là aussi, de rationaliser, de refaire un outil de travail qui soit adéquat pour le territoire, coûtera pas très cher à la commune. Enfin, on a la médiathèque. Bon, sur la partie médiathèque, on aura, on espère, 40% de la DRAC. Là aussi, on aura des subventions complémentaires. Et puis, les fléchages du contrat Vendée Territoires ou du contrat régional à venir. Ce qui fait que... Et puis notre million supplémentaire, ce qui fait que, voilà, on sera peut-être amené à emprunter, mais de manière très, très mesurée. Et puis c'est de la bonne gestion aussi que d'aller emprunter quand il le faut. Hein.
Bruno Nourry, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Ouais, quelque chose à rajouter, oui, je le dis, on s'est beaucoup fait attaquer sur les municipales en disant que la gestion de la commune était catastrophique, etc. Nous, bon, moi, je l'avais dit à l'époque, c'est pas parce qu'à un moment donné, la capacité de remboursement s'était érodée pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, que c'est la catastrophe. L'important, il faut savoir où on va en termes budgétaires, de maîtriser ces différents indicateurs, de rationaliser la gestion dans les services, etc., de bien regarder comment se comporte la dette dans le temps pour retrouver des capacités à investir. Et aujourd'hui, hormis cette dotation insulaire, on se retrouve avec une cave brute d'un million sept. Bon, c'est avec une dette à 10 millions, donc on passe sur un ratio à 6 ans. Ben là, on a pu... tout le monde dirait, ah ben bravo, c'est de la bonne gestion. Mais elle a toujours été là, cette bonne gestion, en fait. Mais par moment donné, il y a des investissements qui viennent impacter sur les ratios. Et puis c'est logique, ça monte, ça descend, etc. Et le tout, c'est d'arriver à naviguer avec ça et de le faire en sorte de pas faire peser de manière trop forte ces équipements sur nos concitoyens. On a décidé de pas augmenter les impôts encore cette année, hein, et pourtant les municipalités, c'est plutôt en début de mandat qu'ils augmentent les impôts. Enfin, vous pourrez regarder par rapport aux communes d'en face, la pression fiscale est largement contenue. On fait attention à notre base salariale, on fait attention à nos dépenses de fonctionnement. Alors des fois, oui, on est serré, ça se passe pas si facilement, parce que quand on sert, on refuse des choses à des gens, mais c'est ça aussi la bonne tenue d'un budget. Et aujourd'hui, on en cueille un peu les fruits, et la commune a des capacités à investir, à un budget que moi je trouve plutôt péchu, hein, parce que on est à 7 millions d'euros d'investissement sur le budget principal. On a aussi nos budgets annexes, hein, on a une douzaine de budgets annexes, et c'est un budget qui globalement se porte bien. On a des fois des soucis sur certains budgets, mais on garde toujours cette visibilité pour la conduite des affaires communales. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu insatisfaisique, mais justifié, parce que voilà, moi je suis ravi de ce résultat de 2016, qui montre bien que finalement notre façon de gérer n'est pas complètement
si chaotique que ça.
Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire.
Bruno Chopin, directeur général des services à la mairie de Lille, quelque chose à rajouter avant de dire au revoir?
Écoutez, c'est toujours un plaisir d'entendre Bruno Nourry parler du budget, parce qu'il maîtrise ça parfaitement et on sent qu'on pourrait l'écouter pendant des heures et que lui pourrait parler pendant des heures. Je ne savais pas s'il allait le dire, parce qu'il a beaucoup de pudeur aussi dans sa présentation, mais c'est vrai qu'un budget comme celui-là, à 7 millions d'euros d'investissement financé avec de l'épargne et dégagé par le fonctionnement, et puis des recettes extérieures, notamment venant de subventions, sans emprunt pour la commune et sans augmentation des impôts, effectivement, c'est... Pour moi, qui ai une expérience assez longue dans les collectivités locales, c'est pas tous les ans qu'on vote des budgets comme cela.
Donc, en tant que directeur général des services, vous êtes plutôt satisfait de la gestion de la mairie de Lille-Dieu ?
Oui, absolument. Vu cette nouvelle qui n'est pas tombée toute seule, cette nouvelle de la dotation d'insularité, c'est vrai que c'est un travail qui a certainement été long. Moi, j'y ai pas participé du tout.
10 ans, on le rappelle ?
10 ans de travail et 1 139 000 euros, c'est une dotation qui est pérenne et donc qui va forcément amener beaucoup de capacités pour la commune de Lille-Dieu.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Neptune FM. À très bientôt.
Merci Roland.
La mairie vous répond, le rendez-vous des élus de Lille-Dieu. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.